Un jour dans l'histoire. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Laetitia De Witt.
Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire. Nous nous intéressons aujourd'hui à un personnage qui a fait couler beaucoup d'encre, le plus souvent pour la calomnier. Il s'agit de la dernière maîtresse de Louis XV, la comtesse du Barry. Il faut dire que son destin a de quoi nourrir les ragots. Sa modeste extraction et la façon scandaleuse dont elle arriva dans le lit de Louis XV lui attirèrent les foudres de quelques proches du roi, à commencer par son principal ministre, le duc de Choiseul, qui s'en servit pour alimenter une légende ordurière qui laissa de nombreuses traces chez certains historiens. Nous vous proposons donc dans cette émission de retracer le destin de celle que Marat appelait la catin royale et de nuancer quelque peu l'image qu'on lui accole encore d'intrigante vulgaire. Pour cela, j'ai le plaisir de recevoir Madame Jeannine Huas, qui a publié récemment aux éditions Talendier une biographie de Madame du Barry. Madame Huas, bonjour.
Bonjour.
Bienvenue au micro de Canal Académie. Je précise à nos auditeurs que vous êtes journaliste et historienne. Vous avez consacré plusieurs biographies à des femmes, souvent, dont Juliette Drouet, Le bel amour de Victor Hugo, paru en 1970, et Madame de Brinvilliers, La marquise empoisonneuse, en 2004. Mais revenons donc à Madame du Barry. Comment avez-vous été amenée à vous interroger sur son sort ?
J'ai toujours admiré Madame du Barry, même quand j'étais en classe, je ne sais pas pourquoi, elle m'attirait beaucoup. Et d'autre part, comme j'habite en Essonne, dans un petit pays qui s'appelle Villiers-sur-Orge, et que Madame du Barry avait acheté le château de Maisonrouge, 6 à Villiers-sur-Orge, pour sa mère, Madame Bécu, j'ai été amenée évidemment à écrire sur cette femme dont j'admirais l'existence.
Dans votre ouvrage, vous vous appuyez sur une documentation jamais utilisée. Jusqu'ici, pouvez-vous nous en dire deux mots ?
Les nouvelles que l'on donnait d'elle étaient surtout colportées par les ragots diffusés par les écrits de Choiseul. Or, en cherchant beaucoup et en me déplaçant énormément, notamment en Angleterre, où je suis allée à la British Library, et à Nantes, où personne n'était allé aux archives municipales, j'ai trouvé énormément de documents sur Madame du Barry. Évidemment, je passe tous les documents que j'ai trouvés en France, et notamment à la bibliothèque de l'Institut, qui est une bibliothèque remarquable.
Alors, plongeons maintenant dans l'histoire de la comtesse du Barry. Et commençons bien entendu par sa naissance. Et tout d'abord, qui sont ses parents ?
Ses parents, c'était une femme qui était couturière de son état à Vaucouleurs, petite ville qui était encore aux abords de la Lorraine. Cette femme s'appelait Mademoiselle, parce qu'elle n'était pas mariée, elle était Mademoiselle Bécu. Anne Bécu. Elle a été couturière chez les Dominicains et elle s'est accoquinée, si on peut dire. Enfin, elle a été la maîtresse d'un religieux qui lui a donné cet enfant. Et après, il paraît qu'elle a eu un second enfant, mais ça, cet enfant a dû mourir très jeune. On n'en a jamais retrouvé de trace. Mais cet enfant unique, c'était la future comtesse du Barry, Jeanne Bécu.
Oui, puisqu'elle ne pouvait pas porter le nom de son père et
non,
pour cause.
Non, mais elle s'en est servie plusieurs fois, parce que quand elle a été plus tard un petit peu lancée grâce au rouet, c'est-à-dire à Jean-Baptiste du Barry, elle s'est souvent appelée Gomard de Vaubernier, ce qui était le nom de son père, qui s'appelait aussi Frère Ange.
Alors il s'agit donc d'une naissance illégitime. Quelles répercussions sur l'enfance de la future Madame du Barry ?
Elle a eu tout de même beaucoup de veines parce que sa mère était donc restée à Vaucouleurs pendant très peu de mois. Et quand elle était encore toute petite fille, sa mère est partie avec elle pour Paris où la plupart de ses frères, sœurs et cousins étaient placés comme domestiques dans de grandes familles. Elle avait d'autant plus envie de partir pour Paris qu'elle avait été, après avoir été la maîtresse du religieux, elle avait été la maîtresse d'un intendant qui était venu à Vaucouleurs pour surveiller les fournitures militaires de l'armée. Et il avait travaillé pour fournir les fourrages, la nourriture, les vêtements, même les literies et la nourriture et tout ce qu'il y a besoin pour les chevaux. Et cet homme s'appelait Monsieur Billard du Monceau. Enfin, il vaut mieux dire le nom pour ne pas toujours dire le financier. Et cet homme s'était épris vraiment de cette femme qui était très belle, cette Anne Bécu qui était très belle. Et il avait été tellement épris qu'il lui a promis, en partant de Vaucouleurs, de s'occuper d'elle si jamais elle venait à Paris. Évidemment, elle s'est dépêchée de partir pour Paris, où elle était sûre donc de trouver une place. Et elle était à peine à Paris qu'elle est rentrée comme cuisinière chez M. Biard du Monceau. Celui-ci avait perdu quelques années plus tôt sa fille unique. Il n'en avait pas eu d'autre, il n'avait pas de garçon non plus. Et il s'est énormément attaché très rapidement à la petite Jeanne, qui était jolie, qui avait du charme, qui avait des magnifiques cheveux blonds. Et il l'a envoyée en pension et à ses frais chez les religieuses de Saint-Aure.
Et que devient-elle à sa sortie du couvent ?
Alors après sa sortie de couvent, elle retourne chez ses parents. Ses parents, entre-temps...
ses parents, en fait, on a souvent souligné d'ailleurs le tempérament sensuel, on va dire, de la future comtesse du Barry, mais elle avait de qui tenir, entre guillemets.
Exactement, parce que sa mère était au fond presque une prostituée. Je dois avouer que je n'ai aucune tendresse pour cette Anne Bécu, qui est devenue Anne Rançon. Son mari était un domestique. Et grâce à ce monsieur Biard du Monceau, il a trouvé une place chez un fermier général des relations de Biard du Monceau. Et il a été employé dans des tâches un peu subalternes.
La jeune Jeanne, finalement, sort du couvent à peu près vers ses 15 ans. Là, certains mémorialistes vont même sous-entendre qu'elle commence dès lors à se prostituer. Est-ce déjà de la calomnie ou est-ce que c'est le cas ?
Non, elle ne s'est jamais prostituée. Plus tard, à cause du Barry dont nous allons parler tout à l'heure, elle aura de nombreux amants. Et encore, même d'après certains auteurs, elle n'en a pas eu de si nombreux que cela. Bon, mais alors, elle ne s'est jamais prostituée. Moi, j'ai cherché à l'Arsenal spécialement et dans tous les dossiers. Il n'y a jamais son nom dans les registres des femmes prostituées qui étaient très bien tenues à l'époque.
Donc, à sa sortie du couvent, elle exerce différents petits métiers, on va dire. D'abord, plus ou moins apprentie coiffeuse.
Oui. Elle va demoiselle de magasin, où elle est un peu mannequin et elle est repérée par les grands artistes de l'époque pour lesquels elle pose, mais on ne dit pas du tout qu'elle a été prostituée. D'ailleurs, je pense qu'avec tout ce qu'elle gagnait et la sévérité de son patron et tout de même le temps qu'elle avait le dimanche seulement, elle n'allait pas du tout courir pour gagner un peu de sous puisqu'elle gagnait sa vie très honorablement.
C'est là qu'elle fit une rencontre qui alors, va s'avérer majeure pour elle.
Oui, non, mais alors avant, sa mère était furieuse parce qu'elle a été à un moment donné demoiselle de compagnie chez une riche femme. Et cette femme, un beau jour, sait qu'un de ses fils, qui est lui aussi très fortuné, est devenu l'amant de Madame du Barry. Je pense que c'est à peu près son premier ou son second amant. Et la mère la met à la porte. Et Anne Rançon, furieuse, ne comprend pas que sa fille n'ait pas été gardée par l'homme qui l'a eue. Et quand elle voit arriver Jean-Baptiste du Barry, qui lui aussi a trouvé que la future Madame du Barry est très belle, très charmante et a énormément de classe, et il demande à sa mère de pouvoir la prendre chez lui et de la former, on voit très bien ce qu'il veut dire, et bien c'est justement Anne Rançon qui accepte et non pas le beau-père.
Alors pouvez-vous nous présenter ce fameux Jean-Baptiste du Barry ?
Alors, Jean-Baptiste du Barry était un homme d'une quarantaine d'années qui était venu à Paris en laissant sa femme dans le Midi. C'était un Gascon et il vivait un petit peu d'expédient. Il avait connu des nombres de gens et s'était mis tout d'un coup en tête de recevoir chez lui. Et très vite, quand il a pris Jeanne Bécu, devenue un peu Mademoiselle Gomard de Famarlier et que l'on considérait déjà à ce moment-là comme Madame du Barry, on la faisait appeler Madame du Barry, eh bien, il l'a prise parce qu'il était d'abord amoureux d'elle. Puis très vite, il s'est dit que, mon Dieu, ça serait très intéressant pour lui de monnayer ses charmes. Et comme il tenait un salon et qu'il y avait des tables de jeu également, c'était donc un salon et un tripot, eh bien, les gens qui désiraient aller avec Madame du Barry, mon Dieu, il acceptait moyennant en finance. Et il a refusé qu'elle aille avec plusieurs parce qu'il ne les trouvait pas assez fortunés. Mais alors, de ce fait, on a 4-5 amants de Madame du Barry dont on sait les noms.
Alors, parce que dans ce salon de Monsieur du Barry se pressaient certains hauts personnages de la cour.
Ah oui, ils étaient nombreux. Il y avait surtout le duc de Duras. Il n'y avait pas Choiseul. Il n'est vraisemblablement pas venu. Il y a eu un tas de noms que l'on peut citer de cette époque, le monsieur de Tiange, Mais enfin, les noms importent peu, je pense.
Alors finalement, Jean-Baptiste Dubarry, très vite, va prendre conscience du potentiel que représente Jeanne Bécu. Et il va se mettre en tête de la présenter au roi.
Exactement, c'est tout d'un coup un besoin qu'il a. Il avait déjà essayé de présenter une certaine Dorothée quelques années avant au roi, mais ça n'avait pas du tout marché. Et là, il s'est dit, je pense que Madame Dubarry va réussir. Et ça a réussi parce qu'on rentrait très facilement à Versailles à ce moment-là, beaucoup plus facilement, même presque que maintenant. Et il s'arrange pour faire entrer, grâce à Lebel qu'il connaît, c'est-à-dire Lebel est le valet de chambre de Louis XV, le premier valet de chambre de Louis XV, il le connaît bien, et il fait rentrer Madame Dubarry à Versailles et passer à un moment donné dans les salles où le roi bouge et se trouve. Évidemment, elle a dû être mise assez vite au premier rang. Louis XV la remarque et lui fait demander un rendez-vous. Et le rendez-vous est si bien convaincant que Madame Dubarry, très vite, deviendra sa maîtresse, avec beaucoup de complications, évidemment.
Donc nous sommes en 1768, Louis XV a 58 ans. Et donc Madame Dubarry devient sa maîtresse, et c'est ce que nous allons évoquer après une courte pause.
Qui ne connaît pas ces évocations insolites de monstres marins, grouillant de mollusques, de crustacés, de grenouilles, de gueules de requins et autres créatures de la mer, prenant la forme de nez, de bouche ou d'oreille, pour en faire surgir le portrait allégorique de l'eau. Archimboldo a connu une immense gloire de son vivant. Il avait brillé à la cour impériale des Habsbourg, à Vienne, au XVIe siècle. Puis il était tombé totalement dans l'oubli jusqu'à sa redécouverte au XXe siècle par les surréalistes. Redécouvrez la modernité de ce peintre dans notre émission Carrefour des Arts sur canalacademy.com.
Vous êtes bien à l'écoute de Canal Academy. Nous sommes toujours en compagnie de Jeanine Huas, auteure d'une biographie de Madame Dubarry, aux éditions Talendier. Voilà donc Jeanne Bécu devenue la maîtresse du roi. Il faut encore franchir quelques étapes délicates pour qu'elle soit reconnue en tant que maîtresse officielle. Et tout d'abord, il faut qu'elle puisse être présentée à la cour. Il faut donc la doter d'un mari et d'un titre. Et Jean-Baptiste Dubarry, là encore, va s'y employer très rapidement.
Hélas pour lui, Jean-Baptiste Dubarry est marié. Je vous l'ai dit, je crois, tout à l'heure, il a laissé sa femme dans le Midi et il ne peut pas du tout l'épouser. Ça serait une bigamie, il serait capable d'aller aux galères ou d'être roué, vraiment sur le bûcher, si on peut dire.
D'ailleurs, roué qui était son surnom.
C'est ça, c'était le roué. Oui, mais le roué dans un sens, non pas le roué, roué de coups, mais le roué, c'est qui a une rouerie personnelle, c'est plutôt ça.
Mais donc, Jean-Baptiste, ne pouvant pas épouser Jeanne Bécu, il pense aussitôt à un de ses frères.
Qui est Guillaume, qui vit encore dans le Midi, qui n'est pas marié, et il le prévient, l'envoie on ne peut pas dire des SMS à l'époque, mais il envoie des messages très convaincants et lui dit évidemment qu'il sera rétribué pour cette action notoire. Et le mariage a lieu et il est fait dans les règles les plus parfaites. Évidemment, le roué s'est arrangé pour ajouter des passages un petit peu spéciaux sur la qualité de Madame Dubarry. On a ajouté des personnages nobles, parce que le roué, c'est avant le mariage, c'est ingénié à augmenter. Et ça, je l'ai trouvé assez personnellement avant les autres, c'est qu'il a vraiment trouvé des moyens d'augmenter son arbre généalogique d'une manière extraordinaire. Et il s'est fait aider de plusieurs personnes pour cela.
Mais ça ne dupe pas pour autant la cour et l'entrée en cour de Madame Dubarry va s'avérer plus difficile, même une fois mariée.
Oui, bien sûr. Et alors, elle n'est pas encore à la cour parce qu'étant mariée, elle n'est que la maîtresse du roi, mais elle n'est pas admise à la cour parce qu'il faut la présenter. Et la présentation est un événement crucial à cette époque-là. Pour être présentée, il faut avoir une marraine. Et bien sûr, les actes, on vient de le dire, les nombres de degrés de noblesse ont été acquis grâce à Jean-Baptiste Dubarry qui l'a vraiment fait les choses très scrupuleusement et d'une manière très maligne. Alors, il faut trouver la marraine. Et heureusement, Louis XV s'emploie, comme il a fait pour Madame de Pompadour, on cherche une personne de haut lignage, bien évidemment, mais criblée de dettes. Et comme on lui promet de régler toutes ses dettes, la personne se laisse séduire. Ce n'est déjà pas si facile, parce que plusieurs refusent la chose. Et enfin, on trouve une marraine. Et Madame du Barry a cette fameuse présentation qui la rend véritablement la maîtresse, la favorite de Louis XV.
Oui, puisque entre-temps, le duc de Choiseul, qui ne pensait que ce n'était qu'une passade,
exactement,
s'est employé à vraiment calomnier la maîtresse de Louis XV.
Oui, il n'en a pas encore usé trop violemment, mais quand il sent qu'elle est arrivée, alors là, ça se déchaîne. Par exemple, quand ils sont à Fontainebleau, au mois de novembre, il est terrible pour ça. Et ça commence à ce moment-là, véritablement.
Parce qu'une fois présentée à la cour, Madame du Barry a désormais des appartements aux côtés du roi.
Dans toutes ses résidences royales,
va suivre donc la famille royale dans ses déplacements. Donc voilà, elle est...
Elle est maîtresse, elle est favorite.
Elle est favorite. Donc là, Choiseul va commencer une politique de dénigrement violente. On a presque l'impression que cette politique va finir presque par encore plus attacher Louis XV à sa maîtresse.
Oui, exactement. Vous avez tout à fait raison. Parce qu'il est galant homme, et il est attaché à Madame du Barry, et de sentir cette méchanceté la pousse à protéger cette femme qui est vraiment très charmante avec lui, qui évidemment le satisfait complètement sur le plan sensuel, qui lui a redonné même une certaine jeunesse, parce qu'il y a 57-58 ans, et surtout à ce moment-là, certains hommes avaient des défaillances sexuelles, si on peut dire. On en a la preuve avec deux ou trois grandes dames qui avaient voulu être sa maîtresse. Et avec Madame du Barry, il n'a aucune difficulté, il est pleinement heureux. Et en plus, elle a une attitude très digne, en sens qu'elle ne s'occupe pas de politique. Quand il lui pose des questions, elle répond. Ou quand il a une envie vraiment de prendre son avis, elle le donne. Mais elle ne se mêle pas de politique. Elle assiste aux réunions avec le conseil, même avec le Choiseul. Mais elle ne fait pas comme Madame de Pompadour, elle ne régente pas Louis XV.
Vous insistez beaucoup sur ce point, et pourtant, dans votre ouvrage, on la voit souvent intervenir quand même au niveau politique. Déjà pour le duc d'Aiguillon, où elle va intervenir auprès de Louis XV. Après, le renvoi de Choiseul est quand même lié à elle. Elle a finalement un rôle politique.
Oui, mais elle ne dirige pas. Elle ne mène pas les personnages. Elle donne son avis. Elle lui conseille. Elle a d'ailleurs un parler assez franc, assez limpide. On a quelques traces. Mais elle n'est pas à dire « je ferai ceci ». Et en plus, comme Louis XV est devenu très amoureux, il a une action politique beaucoup plus efficace que dans les premiers temps de son règne. Il s'occupe à renvoyer les parlements, il fait venir le chancelier Maupeou, l'abbé Terray, des gens qui vraiment vont remettre en état la monarchie de droit divin. Et j'estime qu'un petit peu, grâce à l'ambiance favorable et douce, heureuse que lui procure Madame du Barry.
Les deux grands ennemis de Madame du Barry sont finalement donc le duc de Choiseul, on en a un petit peu parlé, et aussi donc la jeune Marie-Antoinette qui a épousé le dauphin. Et alors là, il s'agit d'une véritable rivalité entre les deux femmes.
Oui, oui. Mais évidemment, parce que Marie-Antoinette ne comprend pas, et nous on peut arriver à le comprendre, c'est une très grande dame, c'est une archiduchesse d'Autriche, d'une des plus grandes familles du monde. Elle a épousé un roi déjà qui est un peu... Enfin, un prince, qui n'est pas encore roi. Et qui est un homme bien bon, mais enfin, pas du tout porté sur la chose, pourrait-on dire. Et elle voit cette femme qui est d'une origine extrêmement modeste, qui a eu des amants. Donc, elle ne sait même pas. Puisqu'il faut reconnaître que Marie-Antoinette ne sera vraiment femme qu'au bout de 7 ans de ménage. Alors, vraiment, c'est une chose qui doit agir sur elle, même si elle ne sera jamais très portée sur l'amour physique.
Et quelque part, elle jalouse cette Madame du Barry qu'elle s'est couverte d'amour par le roi. Et alors, ce qu'il y a de plus étrange, c'est que Madame du Barry, elle, va tout faire pour se faire accepter par Marie-Antoinette.
Oui, elle a eu une réaction malheureuse un jour. C'est qu'elle s'est dit la future reine, la princesse, la dauphine. Elle aime beaucoup les bijoux. On m'a proposé un bijou, j'ai envie de le faire offrir par le roi. Et elle en parle à un des ducs du royaume qui fait la proposition à Marie-Antoinette et qui répond dignement, j'ai bien assez de bijoux comme ça et je n'en veux pas. Et ça l'indispose encore une fois contre Madame du Barry.
Qui va constamment chercher quand même à être reconnue de Marie-Antoinette. Oui. Et finalement, elle va y arriver, mais après la mort de Louis XV.
Oui, oui. Et encore, alors ce qu'il faut signaler aussi, c'est qu'on dit souvent que Madame du Barry était mal avec le futur Louis XVI, avec donc Louis XVI. Or, il y a bien des preuves que Louis XVI était bien avec elle. Et je voudrais vous en citer un cas.
On va en reparler peut-être après la mort de Louis XV.
Louis XV, exactement.
Mais revenons un peu sur son rôle en tant que maîtresse officielle de Louis XV. Vous dites qu'elle n'a pas eu de rôle politique. Et vous dites qu'elle a eu plus un rôle au niveau de l'art, en favorisant certains artistes et en ayant un goût très sûr.
C'est exact, oui. Elle avait beaucoup, beaucoup de goût et elle a influencé un petit peu le style Louis XV. Elle lui a donné un petit peu plus de grâce et de légèreté en choisissant des meubles, des tableaux. Il y a une histoire assez amusante à propos des tableaux, c'est que quand elle fait construire le pavillon de Lucienne, non pas le château de Louis XVI, le pavillon qu'elle veut faire pour accueillir le roi pour des dîners assez brillants, elle demande des tableaux et elle demande à Watteau de lui faire 4 tableaux pour une de ses pièces. Et quand Louis XV sait ça, il commande les tableaux à Watteau, les fait faire, et il y a les surprises de l'amour, enfin il y a 4 thèmes. Et quand Madame du Barry les voit arriver, elle se dit « Mon Dieu, c'est peut-être un camouflet pour ma conduite un peu antérieure. » Et là, elle a un jour un moment d'humeur et elle les refuse. Si bien que ces tableaux ne seront jamais exposés au pavillon de Louvciennes et Watteau sera dédommagé assez considérablement.
Oui, parce qu'un des aspects aussi concernant la vie de Madame du Barry, c'est que Louis XV se montre bien évidemment très généreux à l'égard de sa maîtresse. Elle semble pourtant constamment à court d'argent. Est-ce par générosité ou est-ce un excès de dépenses ?
Elle était forcément dépensière, mais alors il y a une chose qui est très amusante, c'est qu'elle avait la réaction que l'on peut dire un petit peu moderne, c'est que quand elle dépensait, si elle dépensait beaucoup, elle aimait, comment dirais-je, avoir une petite ristourne ou enfin faire baisser le prix, marchander si vous voulez. Et il y en a plusieurs exemples que j'ai cités dans mon livre, il y en a certains. Un jour, elle commande une réplique en buste à la manufacture allemande de porcelaine de Paris. Et elle commande donc cette réplique pour la voir et pouvoir faire des cadeaux. Le porcelainier de cette manufacture allemande lui livre le buste. Et quand elle reçoit la note, qui est marquée sur le papier que lui cède son intendant, M. de Montvalier, elle voit qu'on lui demande 16 livres. Et alors, elle écrit au dos, « Mon Dieu, on me demande 16 livres, et dans la manufacture de Sèvres, qui a été créée récemment, on ne demande que 6 livres. Par gentillesse, Madame du Barry fera remettre 10 livres au porcelainier. Vu la situation de Madame du Barry, je pense que le porcelainier n'a pu qu'accepter. »
Jusqu'à la fin, Louis XV sera profondément attaché à sa maîtresse, et réciproquement d'ailleurs. Au début de l'année 1774, le roi commence à décliner. En mai, finalement, on diagnostique la petite vérole. Et là, c'est la fin pour Madame du Barry qui est obligée de s'exiler. Alors, que va-t-elle devenir après la mort de Louis XV ?
Eh bien, très vite, avant même qu'il soit mort, on l'envoie chez le duc d'Aiguillon, qui a une propriété à Rueil, une propriété de plaisance à Rueil, et elle reste 4 jours. Et aussitôt arrive un ordre fourni par Louis XVI, qui vient d'être nommé, bien entendu, mais enfin qui a été exigé par Louis XVI, on l'envoie à l'abbaye de Pont-aux-Dames.
Vous parliez tout à l'heure donc des relations de Louis XVI à son égard. Là, justement, il va finalement, il obéit aux ordres qu'il l'a fait exiler.
Bien sûr.
Mais très vite, il va se montrer relativement clément à son égard.
Oui, mais même à ce moment-là, et c'est, je trouve, un passage très important que je vais me permettre de lire dans mon livre pour le faire comprendre. Alors, Marie-Antoinette est vite au courant des adoucissements qu'a Madame du Barry à Pont-aux-Dames, parce que c'est beaucoup moins dur. Il y a toute une livraison de meubles qui ont existé et qui ont été vraiment vilipendés d'une manière terrible et nous n'entrons pas dans les détails. Bon, alors Marie-Antoinette donc sait qu'il y a des adoucissements accordés aux prisonniers d'État, d'où son mécontentement, pour ne pas dire sa colère, envers un époux qu'elle juge d'une tolérance invraisemblable à l'égard de la favorite Honi. De Choisy, elle écrit à sa mère « Le public s'attendait à beaucoup de changements, mais dans le moment, le roi s'est contenté d'envoyer la créature au Pont-aux-Dames et de chasser de la cour tout ce qui porte ce nom de scandale. » Or, c'est une phrase d'autant plus importante que tous les historiens ont écrit autre chose en disant « La créature est envoyée à Pont-aux-Dames et tout ce qui porte ce nom de scandale a été chassé de la cour. » On enlève toute la partie du roi, voyez-vous. Or, c'est très, très, très important.
Elle va rester 2 ans à peu près là-bas ?
Elle va rester l'un dans l'autre 1 an, simplement à Pont-aux-Dames. Puis elle achètera le château de Saint-Vrain, puisqu'elle ne doit pas être à moins de 10 lieues de la cour. Et à Saint-Vrain, elle y restera 20 mois. Et enfin, Louis XVI, un peu poussé par le comte de Maurepas, leur enverra à Louvciennes sa fameuse et chère propriété. Donc elle mettra à ce moment-là une vie de femme libre, riche et un peu tranquille, loin de la cour, évidemment.
Elle va devenir la maîtresse d'un haut personnage, le duc de Brissac.
Oui, mais avant, il y a le passage sur le Henri Seymour. Elle s'est éprise d'un Anglais qui habite aussi à Louvciennes, tout près de chez elle. Elle l'a rencontré. L'homme est très élégant. Ce n'est pas un lord, mais c'est un grand personnage anglais. Et il a un charme formidable. Et Madame du Barry tombe en extase et est véritablement passionnée par ce duc Seymour. Et elle aura une liaison très courte et assez peu heureuse. Mais après, le duc de Brissac, qui l'aime depuis longtemps et qui n'osait pas avouer son amour, est un peu torturé de jalousie et devient son amant. Et ça sera une liaison à la fois très reconnue par tout le monde et très tranquille et belle.
Sur ce, la Révolution explose. Quelle va être son attitude pendant la Révolution ?
Eh bien, la Révolution, il se trouve que pendant qu'elle était un jour à souper chez le duc de Brissac, et même elle y logeait, elle avait sa chambre chez lui. Et pendant ce temps-là, à Louvciennes, elle a été cambriolée. Et les cambrioleurs, dont l'un était anglais, ont emporté les bijoux à Londres. Et quand elle a vu ce vol, eh bien, elle a tout fait pour récupérer ses bijoux, puisqu'elle était très attachée à tous ses joyaux. Mais enfin, ce n'était pas tous ses bijoux, c'était qu'une partie. Et elle a été plusieurs fois à Londres, elle a fait 4 séjours à Londres. Et si elle n'était pas revenue en France après le 4e séjour à Londres, eh bien sans doute elle n'aurait pas été guillotinée.
Mais pourquoi justement est-elle rentrée en France ?
Alors là, on s'y est souvent posé la question. Est-ce qu'elle, Louvciennes lui manquait ? Surtout que le duc de Brissac, entre-temps, était mort d'une façon épouvantable en face du château de Versailles. Et elle avait en plus les moyens, avec le reste de ses bijoux, de vivre. Mais, et là c'est peut-être une petite chose un peu ignorée, dont on se demande si c'est vrai, elle était tombée amoureuse du duc de Rohan-Chabot. Et comme le duc de Rohan-Chabot n'était pas en Angleterre, mon Dieu, elle disait « je voudrais bien retourner » parce que le duc de Rohan-Chabot lui a écrit une lettre, la seule que nous ayons de lui, extrêmement touchante et montrant l'amour qu'il a porté à cette femme.
Elle lui a d'ailleurs prêté 20 000 livres.
Oui, elle lui a prêté de l'argent.
Et certains ont dit que c'était afin de soutenir la guerre vendéenne.
Oui, mais ça c'est une erreur pour les dates parce que la guerre vendéenne n'a lieu que plus tard. Or, Madame du Barry ne savait pas la révolte vendéenne à ce moment-là.
Alors nous arrivons déjà au terme de notre émission, nous n'avons pas eu le temps de tout évoquer. Je renvoie nos auditeurs à votre ouvrage, Madame du Barry, aux éditions Talendier. Voulez-vous rajouter autre chose sur la comtesse du Barry ?
Non, je voudrais que plusieurs personnes m'ont dit qu'ils s'attachaient à Madame du Barry après avoir lu mon livre et je trouve que c'est un très gros compliment qu'on me fait.
Merci beaucoup Madame Huas, au revoir à tous et à toutes.